Il est tout juste 20h02. Vous allez pouvoir tout de suite retrouver votre émission sportive de Radio G. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver en ce mardi soir. Comme vous l'a dit Alex, il est 20h avec un tout petit peu de retard. Il est 20h02, bientôt 20h03. En tout cas, nouvelle émission de Génération Sport. L'équipe, eh ben, elle est toujours au complet. C'est Alex qui sera notre technicien du soir puisque tu es à la régie, Alex. Salut Alex.
Salut Max.
Ça fait beaucoup d'Alex dans la même phrase.
Ouais, bonjour. Au moins tout le monde sait que je m'appelle Alex. Voilà, enchanté.
Comment ça va ce soir?
Ça va très bien.
T'es en forme pour affronter cette nouvelle émission?
Effectivement, nouvelle émission, pas mal encore une fois d'actu. On va revenir dessus et voilà, bonsoir à tous nos éditeurs.
En effet, beaucoup d'actu avec notamment l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, on aura l'occasion d'en reparler. Cédric est également à mes côtés, même question, est-ce que t'es en forme Cédric?
Non.
Ah. Et ben voilà, ça a le mérite de ce truc.
J'ai le jet lag.
Parce que explique-nous ce qui s'est passé.
Ah bah écoute, je reviens tout juste de Beijing, hein, donc...
D'accord, t'es notre envoyé spécial.
Le décalage horaire... On ne remercie pas les Américains de vouloir le patinage en prime time aux États-Unis. Et du coup, on nous met ça en plein milieu de la nuit.
Donc c'est pour ça que t'es crevé.
Ouais. Donc, regardez les épreuves jusqu'à 6-7 heures du matin.
Ça s'appelle juste être professionnel. Moi, je vois rien d'autre.
Et se réveiller à midi, ça pique un peu, mais... On est quand même en forme pour faire une belle émission.
Bon, en tout cas, comme vous l'avez compris, émission particulière, on va parler des Jeux Olympiques, mais on va surtout parler d'un autre sport en particulier, puisqu'on reçoit Julien Lecomte. Comment ça va, Julien?
Ça va très bien, merci.
Donc, Julien Lecomte, qui est joueur pour les Yankees, joueur de football américain. On aura l'occasion de discuter avec toi, et puis on parlera également d'un des événements sportifs les plus attendus de chaque année. On parlera Super Bowl. J'ai plus la date exacte, mais il me semble que ça arrive dans
une semaine.
Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ça. Et donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis avant ça, vous avez le droit à la chronique habituelle d'une deux présentée par Alex et moi.
On va commencer tout de suite avec les actualités locales. Tout d'abord avec le basket, pas de match ce week-end pour l'UFAB. C'est actuellement la trêve internationale pour le basket féminin, une trêve internationale à laquelle va participer activement le coach angevin David Gauthier, membre du staff de l'équipe de France. La France qui doit d'ailleurs disputer un tournoi qualificatif à la Coupe du Monde 2022 contre le Nigeria, le Mali et la Chine. Les Bleus affronteront notamment l'ancienne angevine, la malienne Kankou Koulibaly, et l'actuel pivot de l'UFAB, la nigériane Odera Chidom. Et pour Angers, la reprise du championnat est prévue pour le 19 février à domicile contre Charnay. Le AB a enregistré sa sixième victoire consécutive vendredi dernier contre Dax, 84-77. C'était à Jean-Bouin. Trois jours auparavant, les joueurs de Sylvain Delorme avaient battu Rennes, 84-76. L'Étoile tente en ce moment même de continuer leur série de victoires à Toulouse pour leur antépénultième match de la première phase de National 1. Assurés d'être en seconde phase, les Angevins doivent désormais s'assurer de gagner face aux potentiel prétendant à la montée en Pro B. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution du score de la rencontre. Et puis de son côté, Cholet Basket confirme son regain de forme et poursuit sa remontée au classement de la Betclic Elite avec une deuxième victoire de suite contre Roanne, 80-76. Les joueurs de Laurent Villa remontent ainsi à la 16e place, juste au-dessus de la zone de relégation.
Et on va continuer de parler de sport angevin. On va passer du côté du SCO qui avait un très gros match ce vendredi avec un déplacement au Stade Vélodrome à Marseille. Et le match a plus que bien commencé pour le SCO avec un but dès la 8e minute de Fulgini et même un nouveau but à la 11e minute signé Nabil Bentaleb. Le premier but sous les couleurs angevin pour l'international algérien. Mais malheureusement, les Angevins n'ont pas su tenir la barque et ont finalement perdu 5-2 avec des buts, notamment un triplé de Milik, un but de Gerson et un dernier but en fin de partie de Under. Au niveau du classement, les Angevins sont toujours 12e de cette Ligue 1. Attention tout de même, puisqu'ils ne sont qu'à 9 points du premier relégable Metz. Et ça va pas aller en s'arrangeant, puisque quand on regarde le calendrier de la troupe de Gérald Baticle, le prochain match dimanche sera contre Strasbourg. Ensuite, la semaine d'après, il y aura un déplacement à Nice. Et après, il y aura la réception de Lens. Ça va être le moment... je pense que ça va être un moment crucial dans la saison des Angevins. Car si on perd trop de points, ça peut clairement... le maintien peut clairement se jouer là.
Ouais, ça va être un match, enfin ça va être des matchs très intéressants et qu'on suivra évidemment sur Génération Sport. De retour sur les parquets de handball, après un mois et demi sans jouer en championnat, le SCO faisait son grand retour en Pro League à domicile jeudi dernier contre Sarrebourg, contre un concurrent en maintien. Les Angevins pouvaient espérer décrocher de précieux points dans l'optique de sortir de leur place de lanterne rouge. Malheureusement, la partie a été plutôt mal négociée par les SCOistes. Menés pendant la quasi-totalité de la rencontre, les joueurs de Tristan et Tej ont eu la possibilité en deuxième mi-temps de recoller à 21-21, mais ces derniers, trop inconstants, laissaient les Sarrebourgeois creuser l'écart pour une victoire finale 33-29. Des signes encourageants, certains plus inquiétants, voilà ce qu'on peut retenir de cette première sortie du SCO Handball en 2022. L'heure est désormais au rebond et ce sera peut-être vendredi prochain sur le parquet de Célestat, 5e du championnat.
Les Ducs d'Angers ont terminé leur mois de janvier de la plus belle des manières en remportant cette Coupe de France. Alors on se posait beaucoup de questions dans les studios de Génération Sport. Est-ce que les Ducs d'Angers vont réussir à continuer sur cette lancée, ou alors cette finale de Coupe de France va laisser des traces? Et ben depuis, les hockeyeurs angevins ont enchaîné 3 matchs pour autant de victoires. Donc très très bonne semaine pour les Ducs d'Angers. Première victoire, c'était mardi 1er février face à Anglet sur le score serré de 2-1. Ensuite, vendredi dernier, les Angevins ont battu à l'extérieur Briançon 3-1. Et puis enfin, dimanche dernier, les Angevins se sont déplacés à Mulhouse avec une large victoire sur le score de 5-1. Cette semaine, il n'y a pas de match pour les Ducs d'Angers. Ça risque de leur faire le plus grand bien. Et puis, le retour sur les...
Il y a un match
apparemment.
Demain. Contre Bordeaux.
Alors justement, sur l'application officielle, je vois que c'est pour mercredi 16 février. Donc est-ce que c'est un problème d'agenda
je crois que c'est la trêve internationale.
Il me semble qu'il y avait une pause, ouais. C'est pour ça, ça va faire beaucoup de bien aux Ducs d'Angers qui vont pouvoir reprendre des forces. Et puis au niveau du classement, les Angevins sont toujours deuxième. Attention à Rouen qui est juste derrière avec 2 points de retard.
Ouais. Tout attention aux enchaînements des matchs.
Ouais, et ben on a vu justement qu'après cette finale de Coupe de France, pour l'instant les Ducs gèrent plutôt bien. On espère qu'ils vont réussir à garder le même rythme.
On va terminer les actus locales avec le SO Cholet. Après plusieurs semaines d'arrêt, de nombreux matchs reportés à cause du Covid, le SO Cholet enchaîne les rencontres depuis quelques jours. Le dernier match en date remonte à samedi dernier avec une confrontation face à Sedan. Face aux Ardennais, les Choletais ont réalisé une mauvaise opération en s'inclinant 3-1, laissant ainsi passer leurs adversaires du jour devant eux au classement. Actuellement 9e, les joueurs de Richard Désiré ont un match à rattraper et ils le disputent ce soir même sur le terrain de 7. Le match vient tout juste de commencer. En cas de victoire, les Maugeois repasseraient à la 8e place, à 7 points du podium.
Et on va passer du côté des actualités mondiales et internationales. On va continuer avec le football et la journée de Ligue 1 qui s'est achevée. C'était la 23e journée. Donc on va résumer les résultats. Angers a perdu contre Marseille, comme on l'a dit tout à l'heure. Saint-Etienne retrouve le chemin de la victoire pour la deuxième fois d'affilée. C'était face à Montpellier, victoire 3-1. Lyon trébuche une fois de plus, défaite des Lyonnais face à Monaco 2-0. Même score pour Lorient qui réalise un gros coup au classement en battant Lens 2-0. Bordeaux s'incline lourdement une fois de plus, 5-0 face à Reims. Les Bordelais qui ont été malheureusement élus pire défense du football européen. Nice également a trébuché, défaite de Nice face à Clermont 1-0. Score nul et vierge 0-0 entre 3 et Metz. Strasbourg a battu Nantes 1-0. Rennes a battu Brest 2-0. Et le Paris Saint-Germain a battu Lille 5-1. Il y a aussi de la Coupe de France cette semaine, messieurs, avec 4 matchs, puisque nous jouons les quarts de finale. Dès ce soir, Monaco reçoit Amiens. Demain, Bergerac reçoit Versailles. Il y a également le gros match entre Nice et l'Olympique de Marseille. Et puis, ces quarts de finale de la Coupe de France vont se clôturer jeudi soir avec un Nantes-Bastia.
Les filets sont sortis à Nice ou pas ?
Comment ?
Les filets sont sortis à Nice ou pas ?
Bonne question. je pense que tu fais allusion au débordement de début d'année.
Non, mais ça va être intéressant de voir justement si des mesures.
C'est vrai, surtout que les supporters sont de retour dans les stades.
Alors, je crois que les supporters marseillais sont
interdits de déplacement.
Sont interdits de déplacement encore. Oui.
On va voir
s'il y a eu une évolution pour ce type de match.
On espère en tout cas que ça finira pas comme en début de saison.
Mais surtout que ça se passe à Nice. On va enchaîner avec la grosse actu du moment sportive, c'est évidemment les Jeux Olympiques d'hiver. Après le lancement vendredi dernier des 24e Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, l'équipe de France était prête à atteindre ses objectifs malgré les conditions rendues difficiles par le Covid et une neige qui est majoritairement artificielle. La première médaille française arriva dès le samedi avec l'argent obtenu par le relais mixte de biathlon composé de Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Ensuite, l'argent fut le maître mot jusqu'à ce matin, puisque les quatre premières médailles françaises étaient bien en argent. Le lundi, c'est le skieur de 41 ans, Joan Clairet, qui a été sacré vice-champion olympique en descente. Et le même jour, la biathlète Anaïs Chevalier-Boucher, qui obtenait sa deuxième breloque en individuel. Cette nuit, la skieuse de Big Air, Tess Ledeux, grande favorite pour l'or, a dû se contenter d'une deuxième place pour ses premiers jeux. Et enfin, aux alentours de 10h... Vas-y.
C'est ses deuxièmes jeux olympiques.
Deuxième jeu pour Tess Ledeux. J'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre.
Elle a commencé au dernier JO à 16 ans.
Ok. Oui, parce que c'est une jeune athlète.
Voilà, oui. C'était sa première compétition olympique dans cette discipline qui arrivait cette année.
D'accord. En tout cas, voilà. Et donc, comme je disais, enfin, aux alentours de 10h30, heure française, Quentin Fillon-Maillet remportait la première médaille d'or du clan français en 20 km individuel. Donc une sacrée performance. Messieurs, vous suivez un petit peu, tu parlais justement des JO, vous suivez un peu l'actu, enfin en tout cas ces Jeux Olympiques?
Ouais, bah, le gros des compétitions qui sont nocturnes, ouais, j'arrive à les voir. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a déjà des petits scandales entre les athlètes qui arrivent avec des tests négatifs et qui, une fois sur place, sont considérés positifs, qui se retrouvent à l'isolement, mais dans des conditions
horribles.
Sachant qu'il n'y a pas que les athlètes qui sont dans le même cas. Il y a eu des consultants, ne serait-ce que de France Télévisions, aussi, qui ont eu la douloureuse expérience.
Et puis, en général, la population chinoise qui subit quand même la politique zéro Covid de la Chine.
Oui, alors, on a appris aujourd'hui que ça va être réouvert au public.
Ah oui.
Oui. Apparemment, il y aura un peu plus de public. C'est vrai que, enfin, déjà pour ces JO, alors autant je comprends qu'on protège les athlètes, mais bon, 2 contrôles Covid par jour.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Après, quand on voit que certaines compétitions, comme le patinage, du coup, ils sont obligés de se lever vers 5h pour s'entraîner à 6h pour débuter la compétition à 9h. Tout ça parce qu'il faut que ça passe en prime time sur certains sites et qui sont partenaires des JO. Enfin, c'est pas forcément la meilleure des organisations, en tout cas pour certaines disciplines et pour les athlètes. Et par exemple, il y a eu aussi le cas pour le hockey où les Canadiennes ont simplement refusé de jouer un match puisque apparemment les tests russes étaient soit pas connus ou soit il y avait des doutes. Ça s'est résolu. Bon, les athlètes canadiennes ont l'habitude apparemment de jouer au hockey avec des masques. Mais voilà, enfin, il y a des couacs là-dessus. Et puis, on pourra discuter toujours du problème de notation. C'est vrai que ce matin, l'écart est tellement faible. Et pour avoir vu en direct, franchement, la Française était largement au-dessus sur ces deux sauts. Surtout sur le premier, où c'est sa spécialité. Il n'y avait que elle qui l'a fait. La chinoise le sort. C'est vrai qu'il est beau. Mais derrière, il y a un petit peu de comédie, je trouve. Donc, pour un écart comme ça, c'est vrai que c'est toujours délicat de dire s'il y a vraiment pénalité. En tout cas, les places sur le podium sont méritées pour les trois. Mais bon, voilà, des JO qui sont en demi-teinte, je dirais.
Mmh. Ouais, des conditions difficiles.
Et on va terminer cette chronique d'actualité sportive, pardon, je perds mes mots, par un gros événement aussi, un sportif de l'année, le tournoi Destination. Le 15 de France a commencé son tournoi dimanche dernier avec une entrée en lice face à l'Italie, qui est sur le papier l'équipe la moins forte. Et les Français ont fait le boulot, victoire 37-10. Le prochain match, ce sera ce week-end et ce sera un très gros match puisque le 15 de France recevra l'Irlande. Et donc la France terminera ce tournoi Destination avec l'emblématique Crunch. Ce sera le 19 mars prochain, pardon, avec la réception donc du 15 de la Rose.
Et il nous reste encore quelques actus avec le tennis, notamment l'Angevin Nicolas Mahut à ce week-end remporté le tournoi double de l'Open Sud de France à Montpellier avec son compatriote et compère Pierre-Hugues Herbert. Il détient désormais le plus grand palmarès du tennis français en simple et double avec 40 tournois remportés, 36 donc en double et 4 en individuel. Autre info tennis, Martin Del Potro, légende du tennis argentin, a annoncé qu'il disputerait son dernier tournoi cette semaine à l'occasion du tournoi ATP 250 à Buenos Aires. Et puis d'autres infos, une info qui va faire plaisir à Yann qui nous écoute sûrement, c'était ce week-end le Paris Grand Slam. Alors je sais pas comment on le prononce, entre guillemets.
C'est le Grand Slam.
Le Grand Slam de Paris. Il y a eu de très belles performances françaises avec notamment donc Margot Pinault, Audrey Tchemeo et Amandine Bouchard qui ont toutes les trois remporté leur tournoi respectif dans leur catégorie. Et puis également chez les hommes, on a eu le droit à une médaille de bronze pour Lucas Mkedz qui était lui déjà médaillé bronze au JO. Donc il a réitéré donc sa performance pour son grand retour donc à Paris. Et puis également c'est Axel Clerget qui lui a changé de catégorie entre les JO et donc cette performance à Bercy. Il est passé des moins 90 kilos aux moins 100 kilos et donc il a été défait dès le premier tour, mais en tout cas voilà, apparemment le judoka reste motivé pour la suite et ce changement donc de catégorie. Et puis une autre info donc vous avez peut-être vu circuler un peu sur les réseaux sociaux, une info un peu insolite qui concerne une judoka française, on en a parlé ici dans l'équipe de Génération Sport. C'est Priscilla Nieto qui a été médaillée notamment à Londres en 2012, qui a fait tomber son téléphone portable sur le tatami et qui a donc été éliminée de sa demi-finale. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup parler. C'était
incroyable.
Assez insolite. Toi, Cédric, notre expert judo qui est là aujourd'hui, tu trouves ça assez fou. Tu contestais notamment sa disqualification.
Ouais, c'est tellement un non-événement, ça arrive très rarement en tout cas. Je trouve que ça a été. Enfin, c'est dommage de faire une disqualification pour ça.
Est-ce que.
On a des moyens de pénaliser intelligemment. Alors après, à voir si dans le règlement il y a quelque chose qui dit par exemple utilisation d'armes. On peut considérer que le téléphone a été utilisé comme
c'est vrai qu'on atteint des extrêmes.
Non, mais c'est fort possible que dans le règlement, ce soit spécifié utilisation de toute arme sur le tapis, c'est disqualification.
Ouais, ça peut faire mal si.
Voilà.
Ouais, de tout objet extérieur à la pratique. Ouais.
Et souvent, c'est qualifié en arme.
Si elle casse son iPhone, super, à l'assurance, y a rien.
Alors ouais, toi, tu penses à l'assurance, d'accord.
C'est bon. Oui, le téléphone avant tout.
Non, pour les tiers qui parlent.
Je rigole évidemment, mais oui,
c'est même pas sûr que l'assurance la rembourserait.
Non, c'est un autre débat,
mais en gros, ça peut blesser en vrai.
Non, oui, effectivement, sans le vouloir. Sur un impact, ne serait-ce que le plaquage du téléphone le long du corps, effectivement, sans que le téléphone s'abîme, mais juste sortir un coin dans une côte ou une chose comme ça, ou même sur une projection, le téléphone peut voler et toucher l'arbitre, il y a plein de petites choses comme ça. Après, c'est ça, c'est. On n'a pas vraiment. Enfin, j'ai pas le règlement en tête par rapport à ça, parce que c'est tellement rare. Que pour moi, je pense, oui, c'est une interprétation comme entrée d'un objet illicite sur le tatami, et du coup, c'est disqualification. C'est pas la première fois que ça arrive, déjà, dans un grand slam, donc c'est tellement rare que peut-être faudra un jour se pencher là-dessus, mais bon. En tout cas, oui, je comprends qu'il y ait sanction, mais on aurait dû peut-être faire ça proportionnellement à la faute en soi.
Après, moi je trouve que c'est c'est une erreur hallucinante. En
Moi, aussi, c'est qui m'a choqué. Quoi.
Ouais, mais la disqualification,
elle est professionnelle, ça
me
fait 10 ans.
Me choque pas tant que ça, parce que c'est vrai que c'est tellement un truc. C'est fou de se dire. Je suis judoka professionnel, mais bon, je laisse quand même mon téléphone dans le kimono.
Alors, ce que me disait Cédric, justement, off, juste avant, c'est qu'en gros, elle avait passé un appel juste avant, c'est ça?
En tout cas, d'après ce qui est vu, ce qui se passe souvent, c'est que t'as ce qu'on appelle la chambre d'appel.
Ouais.
Et tu peux y être, genre, 5 minutes, comme tu peux y être un peu plus. Et donc, forcément, dans la chambre d'appel, t'essayes de te concentrer ou d'évacuer ton stress. Il y en a qui vont se couper complètement. Il y en a, ça va être le téléphone. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est soit elle a reçu des SMS, elle a répondu. Et bêtement, après, elle a eu un appel ou quelque chose comme ça. Et je pense que d'instinct, le truc tout bête, tellement dans sa bulle, tellement que c'était le moment d'y aller, elle l'a fait comme n'importe où. Elle l'a rentré comme si c'était sa veste.
Okay. C'est une erreur. Mais oui,
il
n'y
a
moi,
pas forcément l'entraîneur qui est là aussi
à
checker.
C'est plus une étourderie.
T'imagines
Neymar avec le téléphone dans le protège tibia.
Il fait les selfies.
Ceci dit, regarde, on voit bien au foot des fois des gars qui sont sur le banc contre téléphone.
Et je pense pas qu'un match de foot soit arrêté pour juste un téléphone sur le terrain. Non. Bref, ça aussi, c'est un autre débat.
On va passer tout de suite à la pause musicale. On va s'écouter le nouveau titre de Jazzy Baz en featuring avec Laylo. Tout de suite, on va s'écouter Rose Plin.
Je rappe avec le cœur noir comme Venom. Sur un piano, genre John Lennon. Imagine ma seule envie, c'est de lui faire du sale. Et même si je voulais l'aimer, ça lui ferait du mal. De toute façon, je suis sûr qu'on finira lassé. Je réponds pas là, je suis complètement arraché. Elle sait que je veux pas m'attacher. Tout ce que j'aime, c'est faire du blé. J'expulse une épaisse fumée de ma trachée. C'est plus facile de rêver au futur que d'effacer le passé. Mais t'inquiète, tout finit par passer. Oh. Voir la taille et demain faudra encore oublier la veille. Je veux peut-être finir Miami, je veux peut-être finir Miami. Faut qu'on boule à Miami, mais là je suis dans le 19ème. Cherche un billet violet, ils ont vu j'étais allé. Je fais le premier sur aller. Ils me parlent comme si j'étais à eux, ils me parlent comme si j'étais là. Y'a des bitches dans le secteur, mais j'm'en bats les couilles. J'suis sur le terrain, là y'a tout ma réance. Faut des allées hautes, faut que des codes, faut que ton 13-4, faut ton rendez-vous. J'pull up chez toi, j'étais pas bon, j'sais pas comment allez-vous.
Hey, le diable est venu vers moi et Dieu attend que j'aille vers lui. Ça me travaille l'esprit, je le cache derrière mes lunettes noires. Je me prépare un karma obscur dans un calme absolu. Je suis capable d'autres trucs, mais y'a plus d'espoir. Faut te mettre en sûreté, on pense qu'à se faire tubler. J'arrive en SUV blanc comme des yeux répulsés. Je suis un clashable, déterre comme un commando. Qui peut s'asseoir à la table d'un jeune Diego Armando?
Méfie-toi, ce méga revienne ganté.
Éclate ton monde dans le champ.
Quand je suis déjà mon deuxième plan B.
C'est comme ça qu'on apprend.
À tout moment, je peux me planter.
Moi je reste convaincant. Et toi, le journaliste, fais ton taf. Ne demande pas de me présenter. Non pas que tout le monde me connaisse, mais j'ai du mal à me définir. Quel peace and love, regarde ce monde, règle sa mitraille des civils. J'ai peu de scrupules, la pas du gain me fera la passe décisive. La différence entre Jazzy Baz et Ivan est minime. We'll be right back.
retour dans les studios de Radio G pour la suite de votre émission Génération Sport. C'était donc Rospline de Jazzy Baz et Laylo. On est de retour donc dans Génération Sport pour parler football américain avec donc notre invité Julien qui vient nous parler de l'actualité des Yankees, et puis on parlera Super Bowl un peu plus tard dans l'émission avec cette grande finale de NFL qui s'annonce du coup dans la nuit de dimanche à lundi. Rebonjour Julien déjà.
Bonjour.
Je vais trouver ma phrase. Les Yankees donc ont repris la compétition ce week-end. Oui. Ça faisait donc 2 ans que vous n'aviez pas joué. Donc c'était une victoire assez écrasante face à Pessac, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et ton ressenti du match, ça s'est plutôt bien négocié?
Ouais, il a fallu un petit temps d'adaptation parce que bien sûr ça fait 2 ans. Alors on a eu la chance de pouvoir aller jouer un camp d'entraînement au Flash de la Courneuve, pas avec leur équipe élite bien sûr, parce que ça aurait été un bain de sang sinon contre nous, mais avec leur équipe B qui, ça reste dans tous les cas, ça reste la meilleure institution au niveau football américain, au niveau français. Il y a peut-être une petite concurrence qui peut se faire, un débat qui peut se faire avec les Black Panthers de Thonon. Mais c'est historiquement, quand on parle football américain en France, on parle Flash de la Courneuve. Et on a eu la chance de passer 2 jours avec eux, avec le staff là-bas, donc le QB américain qui a enseigné, qui a teaché à nos QB à nous. Et par exemple, mon poste, moi, les linebackers, on a eu la chance d'avoir le coach linebacker et coordinateur défensif de l'équipe de France.
Okay.
Qui est un puits de savoir. Moi, ça fait 10 ans que, enfin, 10 ans avec quelques petites pauses, hein, parce que je suis parti vivre aux États-Unis, mais 10 ans que je fais du football américain, il m'a dit des choses que je ne connaissais pas.
D'accord.
Donc, et pourtant, je m'intéresse énormément au sport. Donc, ouais, c'était génial. Et en effet, le match de ce week-end, il y a eu, je dirais, un petit carton d'adaptation. La défense est rentrée très rapidement dedans. Parce que on savait que si nous on tenait pas le premier carton, ça allait être compliqué. Fallait mettre notre attaque en confiance et leur dire on est là. Prenez votre temps, prenez vos marques. Et parce que vous avez joué quasi que contre nous, même s'il y a eu ce flash de la Courneuve, et on s'est donné. Et après, oui, à partir de deuxième, troisième carton, quatrième carton, deuxième carton, on a commencé à marquer, et troisième carton, on s'est dit, si on veut les casser psychologiquement, c'est maintenant ou jamais, dès qu'on rentre des vestiaires. Et c'est ce qui s'est passé. Sur le coup de pied d'engagement, on a récupéré la balle directement, alors qu'on était censé repartir en défense, et on l'a redonné à l'attaque, et ça leur a mis un coup au moral, et derrière, on a juste déroulé. Même si je tiens à dire que Pessac a montré une belle opposition, bien sûr.
27-0, donc le score final. 21-0, pardon. À titre personnel et même collectif, j'imagine que c'était surtout un grand kiff, outre le résultat évidemment, de retrouver les terrains, la compétition. Même si vous aviez un peu, vous étiez entraîné, préparé, c'était un grand kiff pour vous, c'est cette reprise de la compétition.
Ah, bien sûr. C'est, de toute façon, on le voit, on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais déjà, on a eu la chance d'avoir énormément de spectateurs. Ça aide beaucoup. En soi, surtout des spectateurs motivés parce qu'il faisait pas très chaud et il y avait beaucoup de vent. Et puis on le voit sur les photos de fin de match, on a tous le sourire jusqu'aux oreilles, et c'est sûrement l'étincelle dont on avait besoin pour complètement se sentir une équipe tous ensemble. Et on le voit dans les discussions qu'on a eues depuis, c'est pas l'euphorie, mais il y a ça nous a donné une bonne dynamique pour continuer sur des matchs qui vont être plus compliqué, on va dire.
Donc c'est ça, le retour du public au stade Marcel Nolo.
C'est ça, exactement. Ouais.
Et oui, du coup, il y a quand même un petit groupe de supporters qui commence à se créer, ou c'est principalement des proches à vous, ou il y a du monde qui vient vous voir?
C'est un peu des deux. On a, moi, il y a des gens que j'avais jamais vus dans le public, mais qui doivent sûrement connaître des joueurs, parce que le bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on a aussi des anciens du club, parce que mine de rien, notre club commence à avoir une petite histoire quand même, et qui sont venus nous supporter. Et c'est vrai que ça fait du bien, parce que historiquement, moi, je commence à être un des plus vieux, à être celui qui a le plus d'ancienneté au club. Et c'est vrai que ça fait bizarre, parce que j'ai pas encore 30 ans, mais. Mais ça fait du bien de savoir que eux ils sont là, et que parce que j'ai joué avec eux, et c'est eux qui m'ont appris à aimer le sport aussi, et de savoir qu'ils sont là derrière nous, même s'ils sont plus dans l'équipe, ça fait vraiment beaucoup de bien.
Autre question, donc sur la suite de la saison, les objectifs. Vous êtes en division
En D3.
C'est ça. En D3. Votre objectif, c'est la montée en D2.
Je dirais pas tout de suite, parce qu'il y a quand même une sacrée marche, ne serait-ce qu'au niveau athlétique ou au niveau des structures, même si on a la chance, comme je le dis souvent à mes coéquipiers, on a la chance d'avoir une sacrée structure aux Yankees. Vraiment, c'est entre les terrains, la mairie qui nous aide beaucoup, le coaching staff et les volontaires, je pense qu'on est à ça structurellement d'avoir une équipe qui peut aller en D2. Mais il faut plus de recrutement. Et par contre, ouais, nos objectifs, c'est clairement les playoffs cette année. Mmh. C'est clairement les playoffs.
Parce que du coup, il y a une phase régulière, c'est ça, quatre équipes encore.
Donc il y a Vannes, Rennes, nous, les Essox de Basse-Goulen qui sont en forfait général, donc on ne les compte plus.
Ok, d'accord.
Et je crois que c'est tout. Et Pessac, excusez-moi, okay. Parce qu'ils sont un peu loin, donc géographiquement j'ai du mal à les placer.
Ouais, Pessac c'est dans le sud, dans ça.
Ah, c'est ça, c'est à côté de Bordeaux. C'est juste à côté de Bordeaux.
C'est juste de la délocalisation.
C'était soit eux, soit Brest, mais Brest ont décidé de descendre en D4. Donc.
Il y aura donc cette phase régulière, et après il faut être dans les. Il faut être premier, parce qu'il y a six.
Ouais, alors il y a les deux meilleurs. Il y a trois poules. Il y a trois poules. Tout, et trois ou quatre, je sais plus. J'ai regardé tout à l'heure pour pas être pris à dépourvu, mais apparemment ça servait à rien.
Mais je crois que j'ai vérifié, c'est trois poules.
Trois poules, ouais. Et il y a les deux meilleurs premiers qui vont en play-off.
Ok.
Et les deux mauvais. Il y a une histoire de non, les trois meilleurs premiers et le meilleur deuxième. Okay. C'est ça.
Donc voilà, et vous espérez donc terminer là-dedans pour après disputer ces play-offs. C'est des quarts de finale, c'est ça?
En gros, oui, ça va, ce que va y avoir. Enfin, c'est même des demi-finales parce que va y avoir deux matchs.
Ok.
Et après, on part directement sur une finale de conférence entre guillemets. Mmh. Et après, on part sur une autre finale entre la conférence nord et la conférence sud, quoi.
Du coup, comme je disais, l'objectif c'était pas de monter tout de suite, mais c'est d'avoir aussi une façon d'avoir plus d'expérience cette saison, et pourquoi pas se jauger par rapport aux autres années.
Il y a aussi de ça, oui. Il y a, même si on va pas se mentir, se jauger par rapport aux deux dernières années, c'est un peu compliqué.
Oui.
Mais comme j'ai dit, moi, ça fait longtemps que je suis au club, et cette année, alors, on a toujours l'habitude d'en rigoler un peu entre coéquipiers quand on a des discours de cette année, on peut vraiment faire quelque chose. Qu'on en rigolait encore avant notre premier match. Mais moi, sur mon ressorti, après le premier match, là, on peut vraiment faire quelque chose cette année. Il y a une dynamique. On est des gens qui s'entendent bien. Il n'y a pas de mouton noir, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de personne qui va descendre une autre personne. On a directement accès sur le début de la saison, sur la communication entre les membres, entre le bureau et entre les volontaires, pour être sûr que si tension il y a, on puisse la régler directement. Et ça, de fait, de désamorcer les bombes si tôt, ça règle tellement de problèmes que on est dans une dynamique actuellement où on sait qu'il va y avoir des matchs difficiles, par exemple Rennes ce week-end, où on sait que techniquement ça fait des années qu'ils jouent avec le même cahier de jeu, et techniquement ils sont parfaits, ils font pas une seule erreur. Donc on sait que ça va être physiquement difficile et mentalement, mais on sait qu'on est là pour se serrer les coudes.
Ouais, justement, tu parlais justement de la structuration du club, et moi je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez les gars autour de la table, mais je trouve que ce club est quand même très bien structuré. Je sais pas si on en a parlé, mais il y a un préparateur physique pour l'équipe première.
Ouais, Ronan,
c'est quand même à ce niveau-là, c'est quand même très important. Nelson qui est coach et qui a une très grosse expérience. Ça vous aide justement ce sentiment de se sentir aidé, poussé par votre direction, par le management en général. Ça vous aide, vous, à vous sentir impliqué dans le projet?
Ah oui, bien sûr, tout à fait, parce que c'est eux les premiers à donner l'exemple en soi. Nous, en tant que joueurs, on peut faire partie des cadres de l'équipe et dire faut faire ça maintenant, ou alors même silencieusement donner l'exemple. Mais si on n'a pas derrière un président et un bureau qui dit pas, qui pousse pas pour que les choses changent, c'est clair que bon, ça va pas motiver les gens. Mais là, on a Florent Aymar qui est président depuis un ou deux ans et qui fait un travail monstre, sans vouloir dénigrer le travail qu'il y avait avant, qui était aussi un travail monstre, mais qui a tout de suite su prendre les rênes et faire un nouveau jeu de maillot, trouver des sponsors, donner énormément de son temps. On a un bureau aussi qui est jeune, mais qui sait faire les choses et qui sait communiquer. Et puis après, on a bien sûr Nelson, qui, je pense qu'il compte même pas ses heures. C'est quelqu'un qui est passionné, déjà. Mm-hmm. Moi, personnellement, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, parce qu'il est toujours patient, même si parfois il y a des cas difficiles à traiter. Mais il a toujours su montrer énormément de patience et il a une sorte de pédagogie et une aura autour de lui qui fait que tu n'as qu'une seule envie, c'est de l'écouter.
Ouais, c'est une crème. C'est vraiment, on l'a reçu plusieurs fois. C'est vraiment un plaisir de parler avec lui.
C'est vrai qu'on, enfin, nous, on voit ça de l'extérieur, mais c'est vrai que depuis qu'on reçoit le club, on voit qu'il y a vraiment un côté, je dirais, club pro qui se fait, alors que ça reste un milieu amateur, il y a un club amateur, quoi. Ah, mais ça s'est structuré au fur et à mesure. Déjà, je pense que le fait d'avoir eu son propre terrain, ça a été une bonne pierre pour élever tout ça.
Ah, tout à fait. Moi, c'est ce que je dis parce qu'on compare parfois avec d'autres clubs, mais les structures qu'on a à Angers, on ne mesure pas notre chance, très clairement. Les vestiaires sont neufs, on a toujours de l'eau chaude, à part quelques exceptions. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres clubs où on a joué. Et la mairie est. La mairie, c'est des crèmes avec nous, quoi. On n'a jamais eu de problème avec eux. Enfin, moi, de ce que j'ai entendu, on n'a jamais eu de problème avec eux. Et puis, dans la structure aussi, on a Renan de Physioca, qui, au niveau préparateur sportif, ça fait mal. Mais tu sens qu'il a des connaissances et qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Et puis après, dans notre structure aussi, dans nos volontaires coaching, on a des anciens du club, l'ancien président, Benoît Dabrigeon, qui est coordinateur offensif. On a Pascal Hervé, fondateur du club. Donc qui est là depuis le début, depuis 32 ans maintenant, 32 ans, qui est coach des running back, et rien que de les voir là, ça crée quelque chose.
Ouais.
On sait qu'on a de l'aide, quoi. Et on a Adri aussi, je t'oublie pas Adri, coach linebacker bien sûr, qui vient d'arriver cette année, mais il a créé une légende.
Ouais.
Il a créé la légende du gorille au dos argenté, on appelle ça.
J'avais un autre sujet sur lequel on peut revenir. Je vais pas essayer de te piéger, hein. Si tu sais rien, tu le dis. Mais il y a eu le flag qui a fait un beau parcours en Coupe de France.
Ouais.
T'as suivi ça aussi toi en tant que joueur du club mais de football américain?
Ah ouais, bien sûr. C'était une sacrée aventure parce que même eux, on en parlait avec eux parce que il y a des joueurs avec qui je suis très proche dans l'équipe de flag et on a parlé avec eux. Ils pensaient pas aller jusque là-bas. Mais c'est ça aussi qui a déplacé certains événements du début d'année et sur ça qu'on a dû communiquer très tôt. Mais ils ont été jusqu'à Lyon en championnat de France, affronter les meilleures équipes de France. C'est la surprise pour nous-mêmes. C'était la surprise pour eux-mêmes, mais derrière ça a boosté aussi toute l'équipe. Une fois qu'on a su remettre les choses à plat, ça a boosté toute l'équipe, toutes les sections. Et puis ça nous a fait une pub monstre aussi.
C'était en plus, oui, vraiment dans le creux du début de la saison qu'il y avait, il y avait cet événement important. On les avait reçus justement. C'était juste avant la finale, je crois.
Ouais, c'était juste avant. C'était Noailles, je crois que.
C'est ça.
Qui est du flag.
Et c'est déjà. Enfin, ça faisait un bon résultat pour l'entrée de saison. Et du coup, oui, ça dynamise toujours un club. Et surtout que voilà, les deux disciplines, malgré qu'elles soient dans des différences, elles sont quand même liées. Ouais.
Ah oui, tout à fait. Bah oui, si.
C'est.
Ouais, sans faire de pub, mais un peu quand même. Si vous n'avez pas envie de jouer au football américain parce que vous avez peur des contacts, ce qui est tout à fait normal, hein, on ne va pas se mentir, mais il faut venir jouer au flag. Il faut venir jouer au flag. C'est le football américain avec quelques règles différentes et sans contact. Mais ça nous. C'est pareil, c'est une histoire de dynamique toujours. Et le fait de les voir partir, tu te dis, je peux pas faire moins cette année. Mmh.
Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre invité sur les Yankees? Et puis on fera une pause musicale et on reviendra sur le Super Bowl.
Ouais, j'ai peut-être une question concernant les Yankees. T'as parlé justement de cette pause de 2 ans dans votre compétition. Mais t'as surtout parlé de l'esprit d'équipe qu'il y avait actuellement. Et justement, c'était la question que j'aimerais te poser. Est-ce que l'effectif a été mis en stand-by pendant 2 ans? Ou alors il y a eu un renouvellement, il y a des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, et comment malgré ces 2 ans de pause, aujourd'hui vous avez réussi à reconstruire un vrai effectif?
Ouais, bah sur ça on a eu beaucoup de chance, parce que par exemple je vois l'exemple des Essox de Basse-Goulaine, qui eux sont forfait général, entre autres, parce qu'ils ont des problèmes d'effectif, mais l'effectif pendant 2 ans a pas... a été un peu en stand-by. Il y a eu des têtes qui sont venues, des têtes qui sont reparties. Mmh. Et là, cette année, on a de la chance d'avoir eu un bon recrutement. Et on a toujours ce noyau dur qui est là depuis plusieurs années, qui a une bonne expérience. Et des têtes qui sont venues, soit des juniors de la catégorie en dessous. Mmh. Pour une fois, on a eu l'énorme chance d'avoir une transmission entre la catégorie junior et la catégorie senior qui se faisait pas les années d'avant, ce qui prouve qu'il y a un énorme travail sur le sur la structure du club. Et on a aussi des retours du pôle France, des athlètes, très clairement, de très très bons athlètes qui ont été formés pour jouer au niveau national comme nous, mais plus dur encore, et qui sont revenus, que Jean et Mao. Qui sont revenus, qui sont d'excellents joueurs athlétiquement et même dans l'intelligence de jeu, dans la volonté, qui sont d'excellents joueurs. On a la chance de les avoir. Et eux aussi, même si c'est pas ceux qui parlent le plus, c'est rien que dans le fait de comment ils jouent sur le terrain, ça va créer des choses. Et on a aussi Martin. Désolé de t'avoir oublié, t'es en attaque, c'est de ta faute. Mais Martin aussi, qui est un excellent receveur, qui est revenu aussi du Pôle France et qui dans le match de samedi créer les actions enfin il y a pas que lui bien sûr, c'est toute une équipe, mais c'est lui qui fait les catchs qui débloque le match, qui débloque les compteurs quoi.
OK, donc en gros comme tu l'as dit, l'effectif joue sur cette diversité en fait entre les jeunes qui ont une importance particulière cette saison et les gars d'expérience.
Ouais, c'est ça. Et puis des gars d'expérience qui sont pas non plus très vieux. Là, c'est plus de la persuasion, bon, de l'auto-persuasion. Hein. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis au club. J'ai commencé à 18 ans. J'ai fait des pauses entre temps, comme j'ai dit, pour des projets personnels. Mais voilà, on arrive à 28 ans. On peut toujours communiquer avec les personnes plus jeunes, bien sûr. Il n'y a pas de barrière, vraiment de barrière d'âge. Mmh. Donc, ce fait que les personnes qui forment le noyau dur soient aussi des personnes pas trop vieilles qui puissent communiquer avec les nouveaux arrivants, ça aide énormément.
C'est vrai qu'une une question avant de passer à la pause musicale.
Non, pas forcément, mais on va peut-être évoquer le calendrier pour les différentes sections, mm-hmm. parce que c'est vrai que ça arrive vite. Déjà, bon, bah pour vous les seniors masculins, mais les filles aussi débutent ce week-end du coup aussi.
Pour les seniors femmes, ce serait plutôt de ce que j'ai marqué moi, ça va être le 20 février. Il y a un rassemblement à Angers parce que c'est un regroupement en fait.
On
a
pas... dans le calendrier que Nelson nous a envoyé pour préparer cette émission-là, je voyais que entre le 12 et le 13, il y avait un challenge.
Ouais, bah peut-être. Alors c'est peut-être moi qui me suis trompé.
Et sinon, oui, il y a le jam le 20 février.
Mais c'est ça. C'est ça. Mais ouais, il y a en effet les seniors féminines. On a aussi une équipe féminine de seniors. Qui travaille avec d'autres équipes parce que on n'a pas assez de membres pour faire toute une équipe, mais ouais, qui se regroupent et qui vont enfin commencer à pouvoir jouer, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, bah c'est comme nous, elles ont été mises à l'arrêt, et comme la section est très jeune, bah elles ont pas eu beaucoup de choses à faire.
Donc voilà, pour le flag, ce sera plutôt début mars.
Ouais, il y a un match à domicile.
Le 6 mars.
Exactement. On accueille le 6 mars la première journée de championnat au stade Marcel Neuneau, derrière les EO, si vous êtes d'Angers.
Voilà, donc on n'hésitera pas à relayer toutes les infos hein, dans les prochaines émissions autour.
Et puis voilà, pour l'instant, pour le cheerleading, c'est pas avant. Fin mars, d'après ce que j'ai, ce sera comme date. Donc.
Ouais, c'est ça. Puis ce sera à Nantes en plus.
Ce sera à Nantes, oui.
Mais c'est ouvert au public si vous êtes intéressé, billetterie en ligne et sur place.
On va également faire un point sur les équipes du Maine-et-Loire qui jouent actuellement. En football, le SO Cholet, et donc je le disais auparavant, est confronté à 7 dans un match en retard de la 18e journée de National. Cholet mène actuellement 1-0, c'est bientôt la mi-temps, avec le but de Aboubakar Moussa. Mustapha Lowe, mais les Choletais sont à 10 contre 11 après l'expulsion de Kochik. Et puis une autre info avec le basket, l'EAB qui mène actuellement, on est à 1 minute de la mi-temps, et l'EAB qui mène à Toulouse 40-37. On verra si l'EAB signe une 7e victoire consécutive en National 1. On va tout de suite s'écouter un artiste qu'on a déjà entendu la semaine dernière. On va s'écouter Eminem avec son titre Not Alike en featuring avec Royce Die 5'9 avec un très bel accent de ma part. C'est parti.
Yeah. brain dead. Eye drops, pain meds, cyclops, day bed, iPod, Maybach, my buck, train wrecks, sidewalks, payless, high tops, K-Fed, IHOP, Playtex, Icebox. That's how much we have in common.
Yeah.
That's how much we have in common.
Whoa.
Up on this mic when we're on it.
Yeah.
That's how much we have in common. That's how much we have in common.
Whoa.
That's how much we have in common. We are not alike. There's not a like us on the mic.
Yeah.
I don't do Jordans and Audemars. I do explosions and Molotovs. Y'all blowing smoke as if y'all ain't washed. I blow the smoke from the car exhaust. Flying to a party I am not invited to. Feeling like the streets need me. I ain't gotta dance long as my Ferrari spider move like Sea Breezy. I don't gotta hire goons. I'd rather try to buy the moon and breathe freely. The sky is blue, the tires new, the Maserati white and cool like GE's. Why these dudes trying to figure out how to do a freestyle as fly as me? I'm confused trying to figure out how to do Capri Styles and Maya G. Everybody doing chick joints. Probably rob these little dudes at fist point. Remember everybody used to bite nickel, now everybody doing Bitcoin. We don't got nothing in common.
No.
We don't got nothing in common.
No.
Y'all in this stuff like doubled up styrofoam cups on them uppers and downers.
Woo.
I'm in this stuff like doubling comments. Find me your brother who's solid to count the shit up and then bust the shit down. With the cops hit us up, we can flush the shit down. We cannot give a fuck, shit a fucking colonic. Selling your cock in your butt for a follower. Possible couple of dollars you powder sniff. Now you slip and call it a power trip, a product of politics. Y'all went from profit and top of the charts to dropped in the park and to polish it. Knowledge is power, but powerless if you got it and you do not acknowledge it. Y'all music sound like Dr. Seuss inspired it. Hiring strippers, prostitute retiring. We could spit it for your advance. I'm fit to be king. You cut out the fitting Prince pants. You niggas
brain dead, eye drops, pain meds, cyclops, day bed, iPod, Maybach, my buck, train wrecks, sidewalks, payless, high tops, K-Fed.
Eminem, donc, sur Radio G. Eminem, j'ai bien prononcé, mais après celui qui est à côté de lui, un peu plus compliqué, donc.
Tu peux réessayer.
Je peux réessayer. Royce da 5'9".
Je l'ai cours des,
pas souvent,
pour des cours d'anglais. N'hésitez pas à appeler Radio G, puis on vous donnera ça. Y a pas...
Donc, on est de retour dans Génération Sport. Cette pause musicale n'est pas anodine, puisque Eminem sera à la mi-temps du Super Bowl. Alors, c'est toujours un événement à la mi-temps du Super Bowl. Le Super Bowl en lui-même, évidemment. Mais la mi-temps du Super Bowl est l'occasion d'avoir un très beau concert. Et c'est le retour de Eminem, qui est avec plusieurs autres rappeurs.
On avait pas dit Snoop Dogg.
C'est ça.
Snoop Dogg, ouais. Dr. Dre.
Ah oui.
Il y a,
L'artillerie lourde.
Ouais, il y a Mary J. Blige, je crois.
Ouais, Mary J. Blige.
Ouais. Et il y a quelqu'un d'autre. Comme je suis pas, j'écoute pas de rap, je peux pas
le retour
vous dire,
de Dre, quoi. C'est...
Ouais, c'était The Weeknd l'année dernière, c'est ça?
Ouais, c'est...
Je vais te laisser peut-être la main, plus Cédric, toi qui t'y connais un peu mieux en NFL notamment, pour poser des questions à notre invité.
Donc, nous présenter aussi la finale, l'affiche de cette finale.
Oui, une affiche que personne n'aurait vue en début de saison. Hein. C'est... On espérait tous peut-être revoir la même finale que l'année précédente, ou en tout cas une des deux équipes. Et bah, ça s'est mal passé pour les champions en titre, puisqu'ils sont sortis en équivalent de quart de finale. Mais vraiment, alors ces playoffs, ça a été les playoffs les plus folles depuis quelques années. Ça s'est joué quasiment soit dans les derniers instants, soit en prolongation à chaque fois, donc fallait vraiment rester jusqu'au bout. Et donc on a eu deux finales de conférence. D'un côté on avait les Chiefs, qui étaient au Super Bowl de l'année dernière contre les Bengals, victoire des Bengals 27-24, mais ça s'est joué sur je crois en prolongation.
Ouais, ça s'est joué en prolongation.
C'est les deux de toute façon ont fini en prolongation. Et de l'autre côté, on avait les San Francisco, pareil, équipe qu'on retrouve régulièrement au Super Bowl contre les Rams. Les Rams, qui est une équipe un peu particulière, puisque c'est une équipe un peu, j'ai envie de dire, pas vraiment de mercenaires, mais en tout cas, le club a mis les moyens pour avoir les grosses stars, en tout cas qui étaient disponibles sans engagement ou en rachetant. Ça leur coûte du coup que pendant plusieurs années ils vont pas pouvoir faire de draft, donc récupérer des joueurs. Et pareil, dans ce match là on finit sur un score de 20-17 et une qualification des Rams. Donc une finale Bengals contre Rams, un Super Bowl un peu étonnant. Je sais pas ce que t'en penses au vu de la saison, mais
ah oui, complètement, parce que les Rams sont une équipe, comme tu l'as dit, qui est dans le mode qu'on appelle généralement win now, C'est-à-dire qu'ils sont, il faut gagner maintenant. Il n'y a pas de construction dans le futur. C'est, on prend ce qu'on a sous la main et on gagne maintenant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié leur structure très clairement parce que dans les prochaines années, ça va être compliqué pour eux. Et ils ont mis l'argent sur les très bons joueurs de très bons joueurs qu'ils avaient dans leur effectif. Aaron Donald, qui est un monstre physiquement. Alors, on dit ça souvent pour les joueurs NFL, mais lui, il se place clairement au-dessus pour un standard de joueur NFL. Et Jalen Ramsey, qui est sans doute le meilleur corner de la ligue actuellement, cornerback, donc qui défend les balles dans les airs, en gros, pour les plus profanes. Et ils ont aussi pris Odell Beckham Jr., qui est un receveur qui a quelques années, il y a des images de lui qu'on fait le tour du monde parce qu'il était sur le dos en l'air en train d'attraper une balle avec une seule main. Et en fait, eux, ils ont fait un très très bon début de saison, moitié de saison. Ils ont battu les champions en titre chez eux, à domicile, les Tampa Bay Buccaneers, l'équipe de Tom Brady. Et à la moitié de la saison, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ont commencé à péricliter. Pas pour dire qu'ils étaient catastrophiques, mais ils ont eu des contre-performances contre des équipes qui n'auraient pas dû les battre. Les Bengals, c'est le contraire. Ils ont commencé la saison en demi-teinte et après moitié de saison, ils ont explosé. Plus personne les a arrêtés. Ils ont battu les Kansas City Chiefs chez eux. C'est compliqué. C'est un des stades les plus bruyants au monde. Kansas City, ironiquement, c'est dans le Missouri. Il avait pendant plusieurs années le record du monde du stade le plus bruyant. Donc quand les fans commencent à s'énerver là-bas, c'est compliqué de jouer.
Dès qu'il y a le Tomahawk, t'as associé un peu.
Ouais, mais ça c'est sur Twitter, ça passe pas.
Ouais, mais à l'écran, ça fait quand même du bruit quand on suit les matchs.
Mais voilà, et eux, ils ont explosé sur la deuxième moitié de saison. Dans les playoffs, ils ont pris toutes les grosses équipes. Ils ont dit, on s'en fiche, clairement. Et ça a été dur, mais ils y sont quand même allés. Et maintenant, ils se retrouvent au Super Bowl. Ils ont un quarterback qui est sûrement l'avenir de la ligue s'ils continuent à jouer comme ça, Joe Burrow, qui est made in Ohio, donc c'est une équipe de l'Ohio, Cincinnati, et lui il a été élevé en Ohio, il a commencé à l'université à jouer en Ohio avant de partir en Louisiane, et là il revient en équipe professionnelle jouer dans l'Ohio. Et du coup personne s'attendait à les voir là, tant pour leur contre-performance que pour leur début de saison.
Parce que la dernière fois qu'on a vu les Rams au Super Bowl, c'est...
contre les Patriots, il y a 3 ans.
En 2002.
Non, les Rams, ils ont joué aussi contre les Patriots l'avant-dernière année.
En 2019, oui.
Ouais, l'avant-dernière année avant que Tom Brady parte. Ouais.
Mais surtout que c'est une finale entre deux équipes historiquement moins importantes que l'année précédente. Il me semble qu'il y a une des deux équipes qui a gagné le Super Bowl.
Ouais, les Rams. Enfin, les Rams, ils ont deux titres.
Deux titres.
Il y en a un qui est sous l'ère Super Bowl en 2000. Et sinon, il fallait remonter en 1945.
Ouais, c'est ça. Et les Bengals, je suis pas sûr qu'ils
aient
aucun
jamais.
Titre.
C'est d'ailleurs la blague, parce que j'habitais à Cincinnati, et c'est la blague là-bas, c'est quoi ça? Bah, c'est un titre du Super Bowl, je connais pas.
Ils ont joué deux. À nos amis parisiens, évidemment.
Ils ont joué deux finales, et à chaque fois, c'était contre San Francisco.
San Francisco de la grande époque de Joe Montana.
Ouais, toi qui habitais à Cincinnati, on imagine, est-ce que tu supporteras les Bengals?
Ouais, bien sûr, ça va me valoir quelques foudres. Quelques foudres de mon du coordinateur offensif parce que moi j'ai appris à aimer le football grâce à Tom Brady, donc ça m'a au début je supportais les New England Patriots, que je supporte toujours bien sûr, mais après il est parti au Tampa Bay Buccaneers, donc je supportais aussi les Tampa Bay Buccaneers, mais j'ai habité à Cincinnati, donc dans mon cœur il y aura toujours les Cincinnati Bengals,
évidemment.
Et justement, je voulais revenir, enfin désolé de remuer le couteau dans la plaie pour tous les fans de football américain.
Tu vas parler de ce qu'il faut plus pas parler.
Oui, c'est celui dont on est toujours en deuil. Tom Brady a annoncé sa retraite, voilà, je l'ai dit. Ta réaction, toi Julien, un déchirement au cœur, j'imagine.
Non, bon, on commençait à s'y attendre. Tom Brady a 44 ans, il allait sur ses 45 ans. C'est une espérance de vie qu'on voit, une espérance de vie en NFL qu'on voit que chez les kickers et les punters, qui sont les gens qui donnent les coups de pied, sans dénigrer leur travail. Mais c'est surtout qu'il part sur sans doute une des meilleures saisons de sa carrière. En général, les gens prennent leur retraite en NFL quand ils périclitent complètement, ils savent pas partir dans le haut de la vague, et lui il est parti dans le haut de la vague. C'est ça qui est surprenant et à la fois pas surprenant, parce que comme il le dit, il a une famille, Il a sa femme qui pendant la saison, c'est elle qui s'occupe de tout, alors que c'est une personne qui a une carrière aussi, sa femme. C'est Gisèle Bündchen, qui est un modèle, un mannequin international. Et c'est elle qui s'occupe de tout, de ses enfants et du reste pendant la saison. Donc c'est compliqué. Et il a dit, c'est bon, c'est terminé.
En tout cas, voilà, l'émission va bientôt toucher à sa fin. On rappelle le rendez-vous, Cédric. Donc c'est 00:30, heure française.
Comme l'année dernière, soit sur Being Sport, soit sur l'équipe. Pour ceux que des fois qui seraient dans la région parisienne, apparemment il y a encore des places. Il y a un événement au Grand Rex, une grosse soirée. Donc ça peut toujours être aussi intéressant d'aller voir ça dans une salle mythique.
Je me pose la question, c'est la première fois qu'ils font ça au Grand Rex ou
c'est la première fois.
Première ou deuxième fois en tout cas.
Ou alors j'étais trop pané quand c'est arrivé. Mais moi c'est la première fois que j'entends que ça arrive au Grand Rex.
Enfin c'est génial qu'un tel événement que du football américain soit diffusé comme ça au grand public dans une salle aussi emblématique que le Grand Rex. Franchement c'est vraiment top.
Surtout qu'ils font pas que ça autour, il y a un buffet, il y a des animations,
il y a une vraie soirée. C'est à peu près, je crois, une soixantaine d'euros pour.
Ouais, c'est à peu près ça.
Vous l'avez entendu peut-être, chers auditeurs, le générique qui s'est lancé. On va donc vous quitter donc sur les ondes de Radio G. Vous nous retrouverez la semaine prochaine avec une émission spéciale EAB. Et donc ce sera Yuri Moroz qui sera notre invité. Et donc on se dit à la semaine prochaine. Et on vous souhaite donc une bonne soirée sur les ondes de Radio G.